Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Ça fait plaisir de se revoir après quelques mois d'absence. Donc, pas que j'étais parti, mais notre église à l'Île-sur-la-Sorgue se développe. Et depuis le mois d'avril, nous avons tous nos cultes. Ce qui fait qu'il y a moins d'espace, de temps libre pour aller aussi dans les églises. Voilà. En tout cas, vous avez les salutations de l'église de l'Île-sur-la-Sorgue. Vous avez aussi les salutations de mon épouse. Et encore une fois, elle n'est pas avec nous. Et bon, vous commencez à être habitué maintenant. En fait, elle avait pensé venir, mais bon, il y a toujours quelque chose. On a des anniversaires, mon beau-père, je vous salue aussi. On a fêté ses 92 ans. Demain, on va le fêter aujourd'hui. Donc, c'est l'anniversaire de notre fils. Donc voilà, j'ai transmis les salutations à tout le monde. J'ai oublié personne. Voilà. Je voulais savoir si parmi vous, il y a des cinéphiles. J'imagine. J'aimais les films. Est-ce que parmi nous, quelqu'un ou quelques-uns ont vu « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?»
Oui.
Vous avez la main là ? Quoi ? Ok, d'accord. Et qui a vu le film « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» Ok. Voilà, la suite. Alors, je vais juste peut-être le résumer pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, parce que sinon ils vont se sentir un petit peu isolés. C'est l'histoire donc de parents, des parents plutôt vieille France, Claude et Marie Verneuil, qui sont issus de la grande bourgeoisie catholique, provinciale, et qui ont du mal à avaler que leurs trois premières filles aient épousé un musulman, un juif, et un chinois. Et leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles, la quatrième, se marier avec un bon catholique, eh bien, ça focalise l'attention. Évidemment, vous savez comme moi, le film nous raconte que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Mais quand j'ai vu le titre la première fois, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu ? Il y a une question qui a trotté dans ma tête. Ça a éveillé ma curiosité. Parce que dans ce titre, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Il y a une phrase que vous continuez dans votre tête, mais que vous ne donnez pas, n'est-ce pas ? C'est quoi la suite ? Merci. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Et la suite, on l'entend pas, mais elle résonne dans votre tête. Vous méritez ça. C'est souvent ce que moi j'entends autour de moi, au marché, lorsque je suis en ville, lorsque je suis un peu partout, j'entends cette même phrase, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Pourquoi telle chose m'arrive ? Pourquoi cette maladie ? Pourquoi les choses ne vont-elles pas comme je voudrais qu'elles aillent ? Pourquoi ? Et la petite phrase arrive. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Cette question, elle sous-entend que Dieu est injuste. Dieu est injuste parce qu'il ne nous rend pas le bien qu'on mérite, d'après cette question. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Sous-entendu, je ne comprends pas. Et donc, le bien que je mérite, Dieu ne me le rend pas. Pire, Dieu nous envoie le mal. Le mal que nous ne méritons pas. Et dans cette pensée contemporaine, Dieu est notre débiteur. Dieu est notre débiteur. Il nous doit quelque chose. Mais quoi ? Dieu aurait-il des dettes chez nous ? En réfléchissant à cette question, je me suis dit, mais que dit la Bible ? Figurez-vous que Jésus répond à cette question. Jésus répond à cette question et nous voulons lire ensemble une parabole que nous trouvons dans l'évangile selon Luc. Et cette parabole, elle est au chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Je lirai donc dans la version Semeur. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne deux jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous voulons prier. Merci Père pour ta parole, cette parole qui a traversé les siècles et qui nous est parvenue, cette parole qui nous révèle ton cœur. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que l'Esprit Saint nous éclaire. Nous avons besoin de comprendre ce que tu veux nous dire pour que nous puissions repartir avec tes paroles, que nous puissions avancer dans notre marche avec toi ou que nous puissions te découvrir si tel n'est pas encore le cas. Seigneur, tu connais nos besoins, tu nous connais tous, chacun. Nous ne sommes pas des matricules, des immatriculations de la sécurité sociale ou d'autres, mais nous sommes des personnes que tu aimes, uniques, créées par toi. Et tu as une parole pour chacun de nous. Alors aide-nous, s'il te plaît, à la comprendre. Nous prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur.
Amen.
Cette parabole a souvent été citée en rapport avec la prière. Et souvent, je l'ai entendue pour introduire une réunion de prière, ou bien dans la prière, on prend cette parabole. Alors, c'est vrai que ça parle de la prière. Et pourquoi pas, si on voulait l'apprendre par là. Mais je crois que l'essentiel est vraiment ailleurs. L'essentiel est ailleurs. L'accent ne porte pas tant sur la prière, mais ailleurs. Sur quoi? Eh bien, c'est Jésus qui nous donne la clé d'interprétation. En fait, il nous dit au verset 9, il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et mépriser les autres. C'est donc à la lumière de ce verset-là que nous voulons interpréter cette parabole. Sinon, nous allons passer un peu à côté du sens. Et nous allons prendre des parties qui nous intéressent, mais qui ne seront pas tout à fait dans ce que Jésus voulait nous dire. Donc, nous voulons prendre cette parabole qui met l'accent sur la grâce et la grâce seule. Ça fait écho peut-être en nous, au temps de la Réforme, au XVIe siècle, les chrétiens ont remis en lumière cette vérité essentielle. Sola gratia, la grâce seule. Et je dois dire que j'ai entamé depuis le mois de février une série de prédications à l'église à l'Isolation, justement sur les 5 slogans de la Réforme. Actuellement, j'en suis à la foi seule. Et je me suis dit, ça serait bien peut-être aussi de vous partager cela sur la grâce. Parce que c'est important de comprendre que c'est la grâce seule qui sauve rien d'autre. Dieu ne nous doit rien. Contrairement à la pensée populaire, Dieu ne nous doit rien. Mais nous, nous lui devons tout. J'ai donc donné pour titre à ce message sur la grâce, il y a la grâce seule. Et je vous propose de nous arrêter ce matin sur, premièrement, l'attitude du pharisien. On voit ça dans les versets 10 à 12. L'attitude, ensuite, deuxièmement, du collecteur d'impôts, verset 13. Et puis, la grâce, verset 14. Alors, regardons, si vous le voulez bien, l'attitude du pharisien. Alors, Jésus commence sa parabole, son histoire, et une parabole, c'est une histoire, hein. Il raconte son histoire en présentant deux hommes qui montent au temple pour prier. Jusque-là, Rien d'anormal. La prière publique avait lieu deux fois par jour dans le temple, à 9h le matin, à 15h l'après-midi. Et cette prière se déroulait dans le cadre du culte d'adoration communautaire, au moment où les sacrifices étaient offerts. En révélant l'identité des hommes, l'auditoire de Jésus peut déjà situer les deux personnages de l'histoire. Le premier nommé, c'est un pharisien. Alors, j'ai dit ça une fois à quelqu'un, il m'a dit, mais pourquoi les pharisiens sont comme ça? Alors non, ce n'est pas les pharisiens. Je sais qu'ici, dans le midi, on est à OM, PSG, mais on va mettre de côté le sport. Ce n'est pas les pharisiens, c'est les pharisiens. Voilà. La précision est en fait, pensons pharisiens. Donc les pharisiens, c'est le premier groupe, donc le premier homme qui est nommé pharisien. Et l'auditoire de Jésus sait qui sont les pharisiens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je me suis aperçu que justement, peut-être que nous, on ne sait pas vraiment qui sont les pharisiens. Et peut-être qu'il faudrait préciser un peu les choses. Alors qui sont-ils? À l'origine, ce sont des juifs pieux, des juifs zélés, des juifs qui se sont soulevés contre l'occupant romain au cours de la période intertestamentaire, ce qu'on appelle la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre les deux testaments. Il y a une période de 400 ans à peu près, entre ces deux testaments, l'ancien et le nouveau. Et donc, par la suite, ces juifs pieux se sont regroupés en partie. Et du temps de Jésus, ils formaient, les pharisiens formaient le groupe le plus important. Mais il y avait d'autres groupes un peu moins importants, comme les sadducéens, on entend souvent parler d'eux dans les évangiles avec Jésus, comme les zélotes, là aussi, comme les esséniens. C'était plutôt minoritaire, ces groupes-là. Les pharisiens, c'était vraiment le groupe majoritaire. Et donc les pharisiens jouissaient d'une forte influence sur le plan social et surtout religieux. Ils se posaient en champions de la stricte observation de la loi. Et le pharisien de notre histoire, eh bien, il s'inscrit dans cette ligne-là. Il est conforme à ce que les gens imaginent d'un pharisien. Monter au temple pour prier fait donc partie des choses normales qu'il est censé faire. Le fait qu'il soit debout pour prier s'inscrit là aussi dans la posture habituelle des coutumes juives. Jusque-là, c'est normal. Si donc l'extérieur est conforme à un homme religieux, la prière qu'il va faire va révéler ce qu'il y a dans son cœur. Elle va révéler ses motivations. Et je dirais que nos prières aussi révèlent nos motivations. Nos motivations à l'égard de Dieu, nos motivations aussi à l'égard des autres, et notre regard que nous portons sur les autres. Visiblement, lui, ce pharisien, il est fier. Il est fier d'être là. Il est debout. Debout devant Dieu, mais surtout, debout devant les hommes. Pourtant, sa prière, elle commence bien. Vous avez vu? Ô Dieu, je te remercie. C'est bon, hein, de commencer comme ça. Et donc, parfois, nos prières ne commencent pas toujours comme ça. Hein. C'est plutôt, aide-moi, donne-moi, j'en ai une liste de commission. Ô Dieu, je te remercie. Wow, pense bien. Malheureusement, ça s'arrête là. Malheureusement, ça s'arrête là. Cette prière est vide. Cette prière est vide parce que Dieu, qu'il remercie, est le grand absent, finalement, de ce monologue. Et quand même, pour le faire, prier Dieu avec un Dieu absent de cette prière, c'est quand même... Faut le faire. C'est quand même un comble. Vous avez remarqué? Aucune parole de louange, aucune parole d'adoration, aucun remerciement, si ce n'est cette phrase, oh Dieu, je te remercie, mais pourquoi on ne sait pas? fait, il remercie de ce qui n'est pas. Lui n'est pas Dieu. Aucune parole sur la grandeur de Dieu, comme tu l'as souligné dans Ésaïe. Et depuis le début de ce culte, tu as souligné la grandeur de ce Dieu qui se révèle. Aucune parole sur la sainteté, sur la souveraineté de Dieu. Aucune parole sur la bienveillance de Dieu et sur l'accueil qu'il fait. En fait, cette prière n'a de centre que le pharisien lui-même. Avez-vous remarqué combien de fois le pronom « je » est utilisé? Alors, je me suis amusé à comparer dans les versions. J'ai regardé dans la version Darby, plus fidèle au texte, et dans la version Darby, 5 fois, il ressort. Alors, je vais vous lire avec les 5 fois « je ». Ô Dieu, je te remercie, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » En 4 phrases, 5 fois « je ». Tout ça pour s'adresser à Dieu. C'est beaucoup, hein? Cet homme est fier, non pas d'appartenir à Dieu, ni même de le servir, mais il est fier de lui-même, de son catalogue de bonnes actions. Ah, c'est un bon observateur de la loi, hein? Il est très zélé. Il va même au-delà du strict minimum. Il dit qu'il jeûne 2 fois la semaine, alors que la loi disait 1 fois. Il donne la dîme de tout, y compris les herbes aromatiques du jardin, ce que la loi ne demandait pas. Le catalogue de ses bonnes actions est long et impressionnant pour qui écoute cette prière. Mais cette prière révèle surtout son auto-satisfaction, son autosuffisance et son auto-justification. Et c'est bien là tout le problème. Cet homme se croit juste. Ah, quand même, il n'ose pas toutefois se comparer à de grands hommes de Dieu. Il ne se compare pas à Abraham, hein, ni à Moïse, ni à David, Daniel. Peut-être que sa conscience l'interdisait, on ne sait pas. Mais par contre, il ose volontiers se comparer à plus bas que lui. Comment peut passer? Des ravisseurs, des gens malhonnêtes, adultères, ou comme ce collecteur d'impôts. Je ne suis pas comme eux. Moi, je suis juste moi. Et c'est là tout son malheur. Et c'est là tout son malheur. Son orgueil l'aveugle totalement et l'empêche de se voir tel qu'il est réellement devant Dieu, nu et pécheur. A-t-il seulement compris que Dieu cherche son cœur et non ses œuvres? A-t-il seulement senti ou ressenti une fois, au moins une fois dans sa vie, sa propre misère? Probablement que non. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens comme ça. Ils sont nombreux, ceux qui sont fiers de leur dévotion, ceux qui sont fiers de leurs bonnes actions. Mais savent-ils que Dieu les cherche? Savent-ils qu'ils sont perdus et misérables? Savent-ils que leurs bonnes œuvres, entre guillemets, ne leur seront d'aucun secours lorsqu'ils comparaîtront devant Dieu? Probablement que non. Par contre, ils ont le sentiment que Dieu leur doit quelque chose. Les bienfaits de Dieu sont à leurs yeux des dus, d'où la célèbre phrase « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Vous avez remarqué que Dieu est toujours perdant dans l'histoire aujourd'hui. Il vous arrive une chose formidable, Et les gens vont dire, waouh, t'as de la chance. Ou alors, tu as accompli un exploit sportif, waouh, qu'est-ce qu'il est beau, il est fort, lui. Mais il vous arrive une catastrophe, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Pourquoi Dieu fait ça? Dieu, il est toujours perdant, en fait. Quand quelque chose de bien arrive, c'est pas lui. Quand quelque chose de mal arrive, c'est lui. Donc finalement, il est toujours perdant dans le raisonnement de Nietzsche. Regardons maintenant le personnage de la, le deuxième personnage de la parabole, le collecteur d'impôts. Alors lui aussi prie, mais alors là, son attitude, elle tranche radicalement avec celle du pharisien. Le texte nous dit qu'il se tenait dans un coin retiré, qu'il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Alors faisons l'effort de nous placer du côté de l'auditoire qui écoute la parabole de Jésus. Pour l'auditoire, les paroles de cet homme sont totalement vraies. Dans la pensée juive, cette catégorie de personnes était qualifiée de racaille. C'est pas un mot récent, hein? D'impurs, de gens de mauvaise vie, de collabos, de traîtres à la nation. En cela, cet homme dit bien vrai. À le voir reclus et à l'écart, ça ne surprend personne. C'est tout juste l'attitude qui convient. Par contre, quelque chose doit froisser l'oreille de l'auditoire. C'est que l'homme prie dans le temple. Et ça, ça a dû choquer l'auditoire. Comment ose-t-il venir dans ce lieu saint, lui, le pécheur notoire? C'est scandaleux. Et là, vous imaginez la foule qui écoute Jésus, qui réagit déjà. Mais Jésus continue dans son histoire, il dit que cet homme ne se préoccupe pas des autres, lui. Il est prostré, il se frappe la poitrine en signe d'humiliation. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça signifie se frapper la poitrine? Alors dans notre culture, ce geste passe souvent inaperçu. Ou alors on se dit, oh, il se plaint, il se mortifie, bon. Mais dans la culture juive, c'est tout à fait autre chose. Savez-vous que dans cet évangile de Luc, une autre fois seulement, nous allons trouver cette même expression, et savez-vous, où, à quel moment? On se frappe la poitrine. Vous avez une idée?
Le deuil?
Non. Attendez, deuxième chance. À quel moment les gens vont se frapper la poitrine dans cet évangile de Luc? Et c'est la seule autre fois qu'on entendra parler de cette expression. Ouais, exactement. Lorsque Jésus vient d'être crucifié, il est dit que la foule se frappe la poitrine. Luc 23, 48. Et ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé de réaliser cela, que la foule, notamment les femmes, se frappait la poitrine à ce moment-là, lorsque Jésus meurt sur la croix. Et ça nous donne un peu plus d'explication, un peu plus de compréhension sur la façon dont son geste, dont l'homme exprime son geste. Il exprime un profond désespoir, une douleur profonde. Ce collecteur d'impôts n'a pas de défense. Ce collecteur d'impôts n'a pas d'excuse à faire valoir devant Dieu. Il n'a pas non plus de circonstances atténuantes pouvant expliquer son péché. Dans sa prière, il va utiliser lui aussi le « je », mais une seule fois. Une seule fois pour dire « je suis pécheur ». Conscient du péché qu'il écrase et le trouble jusqu'au plus profond de son être, cet homme fait appel à la grâce de Dieu. Lui seul est capable, Dieu, de pardonner le pécheur qui implore sa grâce. Sa prière est courte, directe et sincère. C'est un cri du cœur qu'il lance à Dieu en comptant uniquement sur sa grâce, son pardon et sa miséricorde. Je relis les mots qui sont donnés dans cette version. « Aie pitié de moi » ou dans une autre version, la colonne, « Sois apaisé envers moi, pécheur. » Cela signifie « Sois réconcilié » ou « Sois propice, favorable », c'est-à-dire « Détourne de moi ta colère et regarde-moi avec grâce. » C'est ça qu'il exprime. Cet homme réalise que son péché offense Dieu et justifie sa colère à son égard. Mais cet homme sait aussi que dans sa grâce immense, Dieu peut lui accorder son pardon uniquement parce que c'est son bon vouloir et rien d'autre. Sa conviction de péché le pousse à s'abandonner dans les mains de Dieu. Lui ne se compare avec personne. Il se voit comme le pécheur qui a le plus besoin de sa grâce. L'homme le plus coupable du monde entier. Et son attitude tranche réellement avec l'attitude du pharisien, mais aussi avec bon nombre de nos contemporains. Combien de fois n'avons-nous pas entendu ou peut-être dit nous-mêmes, oh, il y a pire que moi, hein, quand on a fait quelque chose qui n'était pas bien, il y a pire que moi, hein. Ou une phrase que je trouve terrible, je ne suis pas plus mauvais que les autres, puis tout le monde le fait.
Tout le monde est mauvais.
Ça fait drôle, hein. Comme si cela pouvait nous excuser devant Dieu. Ou encore, ce que j'ai entendu souvent à propos du mensonge. Oui, mais si j'ai menti, c'était pour ne pas faire de peine aux autres. Bon, croyons-nous vraiment que Dieu comprendra et acceptera nos mensonges pour la bonne cause? Parce qu'il y a des mensonges pour la bonne cause. Jésus n'a-t-il pas dit que c'était le diable qui a des mensonges? Jean 8, 44. Devant Dieu, une seule attitude est acceptable. Celle de cet homme, l'homme repentant, l'homme qui s'humilie devant son Créateur et qui implore sa miséricorde, à l'instar du collecteur d'impôts. Et ça m'amène à mon troisième point, la grâce seule. C'est la pointe ou le sommet de cette histoire. Ça se trouve donc au verset 14, le verdict de Jésus. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. C'est ça le verdict de Jésus. Ce que met Jésus en avant avec cette parabole, c'est la justification qui ne s'obtient que par le bon vouloir de Dieu. Cette grâce ne s'obtient ni par les œuvres, ni par la stricte observation de la loi. Personne n'était capable de l'observer, cette loi. Et la grâce de Dieu, par définition, elle est gratuite, totalement imméritée. Plus tard, dans ses épîtres, l'apôtre Paul développera cette doctrine fondamentale de la justification par la foi, en un Dieu souverainement juste, en un Dieu souverainement saint, mais qui fait grâce en Jésus. Mais c'est Jésus qui a déjà développé cette doctrine dans cette parabole, la grâce seule. Imaginons l'onde de choc de l'auditoire maintenant, lorsque Jésus prononce ces paroles. Cet auditoire qui se croyait juste et qui méprisait les autres. Maintenant, l'auditoire comprend que Dieu ne peut pas les approuver. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont arrogants. Parce qu'ils sont méprisants. Fiers de leur pratique, ils n'éprouvent pas le besoin de se repentir ni de s'humilier devant le Dieu saint. Bien au contraire, c'est pour eux Dieu qui est leur débiteur. Cette conception erronée de Dieu les pousse à se voir supérieurs aux autres. Ce sont des méritants de la bonté de Dieu et non des pécheurs qui ont besoin de sa grâce et de son pardon. Mais je repose la question, qui a mérité quelque chose de la part de Dieu? Qui parmi nous a mérité quelque chose de la part de Dieu? Oui, nous avons mérité quelque chose. La seule chose que nous avons méritée, c'est sa colère et sa condamnation. Jésus n'a-t-il pas dit, le Père aime le Fils, il lui a donné plein pouvoir sur toutes choses. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous la colère, le coup de la colère de Dieu. Jean 3, 35 et 36. La colère de Dieu est déjà là. Mais elle est suspendue. La grâce est encore possible. Mais la colère de Dieu est déjà là. Et elle pourrait s'abattre n'importe quand. Mais Dieu fait grâce encore. C'est le temps de la grâce. La colère de Dieu est là. Il nous faut le comprendre. Mais elle est suspendue pour l'instant. Parce que c'est le temps de la grâce. Pour quiconque. Quiconque la refuse demeure sous le coup de ce jugement et sous le coup de la condamnation. Mais quiconque confesse son péché tourne, et qui tourne vers lui son regard, eh bien, peut recevoir cette grâce. Il peut recevoir pour son cœur ce Jésus qui est venu nous faire grâce. Et puis nous passons immédiatement des ténèbres à la lumière. C'est ça le miracle. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus est venu nous sauver. Le pécheur notoire est reparti justifié. Pas l'autre. Le pharisien, bon observateur de la loi, fier de ses pratiques, il s'est exclu lui-même de la grâce. Il est rentré chez lui, sans doute satisfait de lui-même, fier d'avoir accompli sa béa, sa bonne action, mais totalement désapprouvé par Dieu. Et c'est la même chose pour l'auditoire qui écoute Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient que leur sincérité et leur dévotion font d'elles de belles personnes. J'entends souvent. Oui, mais tout ce qu'il faisait, c'est une belle personne. Dieu va certainement l'accueillir. Ou bien, il mérite celui-là. Parce que vraiment, tout ce qu'il fait, on ne mérite rien. Tout est grâce. Aujourd'hui, beaucoup se comparent les uns aux autres. Beaucoup estiment mériter la faveur de Dieu. Mais cela n'est d'aucune utilité devant celui qui connaît les cœurs. Quelqu'un a dit, j'aime bien cette phrase, espérer gagner la vie éternelle par de bonnes actions reviendrait à utiliser un escabeau pour atteindre le ciel. C'est ridicule, mais c'est pareil. Bon, je vous la répète. Espérer gagner la vie éternelle par de bonnes actions reviendrait à utiliser un escabeau atteindre le ciel. Ah. Ridicule. Absurde. Dans la suite du verset 14, Jésus déclare, car celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Quand nous nous confions à la grâce de Dieu, Dieu nous donne une nouvelle identité. Dieu nous sauve. Dieu fait de nous ses enfants. Nous sommes élevés. Nous avons une espérance vivante, n'est-ce pas? Quand nous refusons cette grâce, nous continuons notre déchéance. Sûr que nous sommes dans le bon chemin. Alors ne renonçons pas à faire le bien, mais plaçons notre confiance en celui qui nous a justifiés devant le Père, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Pour conclure cette parabole, nous comprenons que Dieu a la puissance de produire le bien à partir du mal. Le collecteur d'impôts est un exemple magistral. La grâce opérante de Dieu à l'égard de celui qui se retrouve. Dieu peut le transformer. C'est ça la grâce. Le plus coupable, celui que vous pensez serait le moins qualifié, Dieu peut le changer. Et nous en avons des exemples là. Plein d'exemples. À l'inverse, Satan produit le mal à partir du bien.
à l'exemple du pharisien. Il était bon que le pharisien ne soit pas ravisseur. Il était bon que le pharisien ne soit pas malhonnête ou adultère. Mais le diable a su flatter son orgueil et provoquer sa ruine. Réfléchissons à notre misère et courons nous réfugier dans les bras de notre Dieu. Nous pouvons peut-être lui demander, en toute honnêteté, seul devant Dieu, lui demander d'enlever nos cœurs pharisianique. Je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire, en tout cas, je vous le donne comme ça. Ce cœur qui, derrière lequel pourraient se cacher toutes ces pratiques que nous sommes fiers de faire, d'avoir, des intentions louables. Peut-être on était fiers ce matin d'être là au culte, alors que tant d'autres n'y vont pas. Nous, on est des bons chrétiens. C'est bien d'être là. C'est bien d'être là. Je rassure Paul. Mais ne soyons pas fiers d'être. Nous sommes fiers de Jésus, notre Seigneur qui nous accueille. Nous sommes fiers de vivre ensemble, ça. Nous sommes fiers d'être le temple du Saint-Esprit. Mais pas de nos actions. Rejetons également toute idée de nous comparer les uns aux autres. Et soyons serviteurs les uns des autres. Je n'ai pas besoin de dire en haut. Il y a une vie chaotique, hein, celui-là, ou bien celle-là. Hein. Moi, c'était mieux quand même. La grâce, sans la grâce, on est perdu. Enfin, abandonnons toute idée de mérite. Dieu ne sera jamais notre débiteur. Mais nous, oui, et pour l'éternité. Enfonçons cette réalité, cette vérité dans notre crâne. Soyons reconnaissants pour sa grâce et vivons de la grâce par la grâce et pour sa gloire. Alors là, sur la grâce seule.
Amen.
Nous en prie. Seigneur, merci pour ta parole qui nous montre à quel point nous étions perdus, à quel point nous n'avons rien mérité. Pardon pour toutes les fois où nous avons le sentiment que peut-être on n'était pas si mauvais que ça, peut-être moins mauvais que d'autres. Nous comprenons que nous étions pécheurs, perdus. Et que si tu n'étais pas venu, Jésus, nous ne pourrions en aucun cas nous tenir devant toi et vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Merci Jésus d'avoir accepté de tout quitter, de t'humilier, d'avoir été crucifié pour nos péchés. Alors oui, on n'est pas meilleur que les autres, mais par la grâce, nous voulons t'honorer, nous voulons te plaire, nous voulons vivre une vie tout en mort. Et ce que tu nous donnes de faire, nous voulons le faire bien. Nous voulons te demander pour cela que tu nous aides. Nous voulons être fidèles dans les tâches que tu nous confies. Nous voulons être tes ambassadeurs. Nous voulons être porteurs de cette bonne nouvelle. Nous voulons partager cette grâce à quiconque l'entend. Et je te prie encore que dans cette parole grâce, tu permettes que tes cœurs s'ouvrent, tes personnes découvrent cette bonne nouvelle et viennent à toi. Oui, nous te devons tout et pour l'éternité. Nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait. Sois béni, Dieu notre Père, en Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.